Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
À toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable soirée de football pour celles et ceux qui, bien évidemment, apprécient le football. Je vous rappelle que vous retrouverez Lionel souvent lors des prochaines soirées de Champions League dans à peine une semaine, me semble-t-il. En tout cas, pour ceux qui n'aiment pas le football, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Soyez les bienvenus, en tout cas, toutes et tous sur Europe 1, sur votre libre antenne qui ce soir dure jusqu'à 1h du matin comme d'habitude et qui est exceptionnellement écourtée par le football, vous l'aurez compris. Comment allez-vous, chers amis? Avez-vous envie de partager, de vous raconter? Et si oui, bien évidemment, vous savez comment nous joindre. Vous faites le 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Vous envoyez vos SMS au 7-39-21, suivi du mot « nuit », écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et puis toujours vos mails à notre adresse mail, donc libreantenne@europe1.fr. Et puis sur notre groupe de parole Facebook, Olivier Delacroix, Sabine Marin, La Libre Antenne. Voilà. Nous voilà bien installés, tranquillement. Nous allons maintenant y aller. Cette libre antenne du mardi, c'est parti.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Magali, avec qui nous avons échangé hier. Bonsoir Magali, comment la nuit s'est-elle déroulée? Vous avez bien dormi?
Moyen, mais je pense que je dors trop, ou je pense que je suis décalée. Avant que vous m'appeliez, là, je pense que mon traitement, il est plus trop adapté, puis j'en veux plus, alors comme ça...
En fait, par rapport à la discussion que nous avons eue hier, on discutait hier soir après l'émission, et on se disait que ce traitement que vous avez depuis 20 ans et qui, visiblement, n'a pas beaucoup bougé, il serait peut-être temps... Peut-être de le confronter à l'avis d'un autre médecin. D'autant plus que hier soir, vous me disiez que votre psychiatre vous faisait des réflexions du type est-ce que tout ça n'est pas de votre fait? Est-ce que vous pouvez vous en sortir? Est-ce que vous y mettez de la bonne volonté? Vous voyez, je pense que le dernier à devoir vous dire ça, c'est votre médecin. Mais ça, c'est mon point de vue. Je trouve qu'un médecin peut... En tout cas, il est toujours là pour dire ça va aller, il va falloir y aller et il va falloir aller puiser de l'énergie là où il en reste, mais surtout pas vous infantiliser et vous, encore une fois, vous mettre dans une situation de responsable de ce qui vous arrive. Parce que vous n'en êtes pas toute seule responsable avec tout ce que vous nous avez dit hier soir, et notamment cette famille.
Non, je pense pas, mais je culpabilise par rapport à plein de choses.
Oui, mais...
j'arrive pas à...
Vous culpabilisez, Magali, vous culpabilisez beaucoup par rapport à votre famille, et notamment par rapport à votre mère. Et il va falloir, je ne sais pas si vous y avez pensé déjà, mais il va falloir peut-être mettre un peu de distance, alors pas obligatoirement avec votre mère, mais mettre de la distance dans tout ce qu'elle peut vous dire et ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'elle vous dit. Je repensais à la... Vous savez, j'y ai pensé aujourd'hui à cette réflexion qu'elle vous a faite lorsque elle vous dit « Ton garçon, il ne viendra chez toi que si tu ranges ta maison ». Vous voyez, ça, c'est une parole infantilisante, c'est une parole déjà qui vous met dans une position déjà de celle qui n'a pas rangé sa maison. En tout cas, en disant ça, elle suppute que c'est un peu le chambard chez vous.
Parce qu'en fait, avant, j'étais très maniaque. Je m'occupais beaucoup de mon intérieur. Et c'est vrai que j'ai lâché parce que Parce que quand je suis pas bien, comme je suis toute seule, j'en ai, excusez-moi du terme, mais j'en ai un peu rien à foutre, quoi.
Ouais, mais bon, c'est important. C'est important que vous repreniez les rênes, mais toute seule, Magali. Il faut que vous...
J'ai pas... Le problème, il est compliqué parce que moi, j'ai pas... En fait, j'ai pas coupé le cordon d'avec ma mère.
Mais oui.
Et mon gars, je reproduis pareil avec mon gars et c'est pas bon parce que je... Enfin, mon gars, lui, il a un peu plus coupé parce que il m'appelle pas régulièrement. Je lui en veux pas. Mais c'est compliqué parce que quand c'est pas ma mère, c'est ma sœur qui s'y met. On n'est que deux. J'en prends plein la tête.
Vous en prenez plein la tête, Magali. Encore une fois, je vous le dis. Vous en prenez plein la tête parce que vous voulez bien prendre pour argent comptant ce que votre mère vous dit, ce que votre sœur vous dit. Et qui sont-elles pour vous donner des leçons, votre mère et votre sœur? Vous êtes aujourd'hui une femme de 50 ans. Vous avez.
Des fois, je me demande si je suis mûre, quoi. J'ai un problème.
Oui,
par
mais
rapport à
il
ça.
Faut arrêter de dire que vous avez un problème par rapport à ça, parce que vous, je pense que vous, quelque part, vous vous maintenez dans cette position-là. Et moi, je ne veux pas je ne veux pas entendre. En tout cas, je ne veux pas que vous vous disiez, moi, je suis une petite fille, j'ai pas grandi, j'ai pas. Non. Aujourd'hui, vous avez fait votre chemin. Il est comme il est, votre chemin.
Hein, oui, mais
il est pas si mal.
Que ce soit différent.
Mais oui, mais on veut tous des choses.
Regardez, vous êtes journaliste, vous êtes intelligent. Moi, j'ai pas fait des grandes études.
Mais qui vous dit que vous êtes moins intelligente que moi? Qui vous dit rien ne dit ça. Et puis, vous savez, Magali, on a toujours la possibilité de se recréer. On a toujours la possibilité de réengager de nouvelles choses dans la vie. Parce que rien n'est jamais définitif, mais comme je le dis souvent ici, c'est tout simplement une décision qu'on a entre les mains, personnellement. C'est une décision que personne ne prendra à votre place. C'est vous qui pouvez décider de changer les choses. Et notamment avec votre gars, hein, comme vous l'appelez, votre fils... rien ne vous empêche de lui envoyer un petit texto de temps en temps en lui disant « Je pense à toi, je t'aime ». Ta maman pense à toi, j'espère que tout roule, que tout va bien. Vous voyez, pas être sans lui mettre la pression, sans lui dire appelle-moi, tu me manques, mon chéri, tu m'appelles pas souvent. Vous voyez, c'est le jeu de la culpabilité. C'est culpabiliser l'autre à chaque fois que vous lui dites tu me manques, tu m'appelles pas beaucoup quand même, hein. Je suis toute seule quand même, essaie de faire un effort la prochaine fois. Ça, vous voyez, c'est culpabilisant et c'est chiant même. Vous voyez? Alors que.
Ouais. Il faut pas que je lui fasse ça.
Voilà. Et puis, par contre, vous pouvez lui envoyer des petits. Un petit message de temps en temps parce que ça vous fera du bien. Et puis, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain d'envoyer un petit texto, de dire je pense à toi, j'espère que ça se passe bien, Arène. Voilà. J'espère te voir bientôt. Mais sans culpabiliser. Et puis, ça, c'est concernant votre fils. Mais concernant votre mère ou votre sœur, alors la mère et la sœur, c'est pas la même chose. Déjà, je vais passer à la sœur. La sœur, elle a rien à vous dire, votre sœur. En tout cas, ne prenez rien pour argent comptant de ce que dit votre sœur. Votre sœur, quel âge a-t-elle, votre sœur?
On a 7 ans d'écart.
Et elle est
jeune? Oui, elle est beaucoup plus jeune.
D'accord.
Que moi. On a 7 ans d'écart, j'ai 50 ans, donc elle a 43.
D'accord. Et est-ce que vous considérez aussi, là, que votre sœur est plus intelligente que vous, au point, en tout cas, qu'elle a plus de choses que vous, pour se permettre de vous faire ses réflexions?
Pas forcément plus intelligente, mais plus stable.
Bon, mais plus stable, peut-être parce qu'elle a reçu la bénédiction de maman par rapport à vous. Parce que j'ai l'impression qu'après vous avoir écouté hier, vous avez tout de même été pas mal sur laquelle on tapait facilement, hein, qu'on critiquait facilement aussi, parce que vous avez évoqué hier une jeunesse, une enfance et une jeunesse où votre maman n'était pas spécialement douce avec vous par moment. Donc,
non.
Vous savez, tout ça, après, dans sa construction personnelle, on le traîne pendant un long moment quand on a été le vilain petit canard, celui qui ne réussissait pas, ou pour peu qu'on ait un frère ou une sœur qu'on a un peu mis sur un piédestal, eh bien, ça entretient vous savez, ce syndrome de l'imposteur, ce sentiment qu'on n'est pas valable, qu'on mérite pas grand-chose en fait. Mais ça, en fait, c'est bon quand au final, on a 22, 32, allez, jusqu'à 40 ans, qu'on peut avoir ce type de sentiment un peu qui est lié à la construction parce qu'on est encore jeune. Mais à partir de 40 ans, je trouve qu'il y a une maturité nouvelle qui s'installe et qui nous donne la possibilité, en tout cas, de nous poser. Et pour certains, je vous dis ça, ça n'est pas une règle, hein, ce que je vous dis. Pour certains, ça peut venir bien avant 40 ans. Ça peut même venir à partir de l'âge de 20 ans. Ça peut arriver à votre garçon, d'ailleurs, de se dire « Moi, toutes les réflexions, les trucs, là, le fait de me culpabiliser parce qu'on ne me voit pas trop et que ceci, cela, moi, j'arrête d'écouter tout ça et puis je fais ma vie. » Et c'est ce qu'il a l'air de faire, votre garçon. Et c'est pas plus mal, je vais vous dire. Parce que lui, il taille sa route. Et c'est ça qui est important.
Il vient quand même me voir, en vacances là, il va venir jeudi, donc
Mais
je vais essayer de pas lui prendre la tête, c'est pareil, j'ai tendance à lui reprocher des choses qu'il a fait, que...
Mais faut pas...
Enfin, c'est pas facile pour un enfant de grandir, d'avoir été rejeté par son père.
Mais faut arrêter de lui parler de ça. Faut arrêter de lui parler de ça, Magali. Magali, vraiment, faut vous m'écoutiez. Votre fils, là, il est en prépa à Rennes. Il a 20 ans. Il s'en sort pas si mal. Qu'est-ce qu'il y a derrière vous, là, que j'entends? Il y a une machine, un truc, quelque chose?
Ah oui, attendez. Excusez-moi.
Oui.
Oui, c'est sûr.
Vous voyez, en fait, il faut arrêter de lui parler du passé. Et hier, je vous disais aussi, vous arrêtez de vous bercer en permanence du passé. Parce que dans le passé, il y a toutes ces histoires que vous m'avez racontées hier, tous ces gens qui vous ont trahi, ceux qui ont été méchants avec vous, toutes ces réflexions, tout en Angleterre, cette histoire de personnes avec cette secte-là qui vous ont un peu berné. À vivre dans le passé comme ça et à tout le temps remuer le passé...
Le problème, c'est j'en veux à ma mère parce que elle a été... tout raconter à mon gars que j'étais partie en Angleterre, j'ai fait ceci et cela. Mais ça, c'était ma vie d'avant. Je l'avais pas, lui. Il n'était pas là. Et je ne comprends pas pourquoi elle s'acharne à lui dire, à lui avoir dit tout ça, alors que, oui, c'est vrai, je suis partie, j'avais 20 ans, je suis partie, mais ma mère voulait que je m'en aille, elle aurait voulu que je m'en aille partout pour aller travailler, en Suisse, n'importe où, mais du moment que je parte, et ça a toujours été compliqué, toutes les deux, j'ai pris des beignes, et puis j'étais un peu bête de ce côté-là, parce que quand j'en avais pas, j'attendais que ça tombe, j'étais tellement habituée que
Et vous étiez une gentille en plus, j'ai l'impression. Donc
j'avais du caractère, mais j'étais pas. Ma sœur était plus maligne parce que quand elle voyait comment ça se passait, elle s'en allait. Elle faisait pas front à ma mère. Moi, j'ai toujours fait front à ma mère. Et je sais pas pourquoi c'est comme ça.
Est-ce que vous lui faites front aujourd'hui quand elle vous fait des réflexions sur votre intérieur, par exemple? Est-ce que vous lui avez dit aussi qu'elle ait raconté tout ça à votre fils? Ça vous avait profondément blessé. Est-ce qu'une fois vous lui avez dit?
Non, même pas.
Mais ouais, mais peut-être
même
que
pas
ça vous.
Parce que j'arrive plus à lui parler.
Mais ouais, mais parce que vous n'osez pas.
Le problème, c'est que quand je lui parle, de toute façon, dès que je parle. Ça va pas. Si ça va pas dans son sens, en fait, j'en ai toujours eu peur de ma mère. J'ai toujours eu peur d'elle, quelque part, parce qu'elle n'était pas facile. Et c'est vrai que quand je suis rentrée d'Angleterre, j'étais pas bien du tout. Il m'avait envoyé voir un médecin et tout, parce que il n'arrivait plus à maîtriser mes deux parents. Et Et je pense que je comprends. Enfin, il y a des choses que je peux comprendre. Je n'en veux pas tout. Parce que je me rends compte que d'élever un enfant, c'est pas si simple. La preuve, moi, moi j'avais deux parents. Moi, je suis toute seule. Mais c'est un choix. C'est quelque part, c'est un choix au jour d'aujourd'hui. Je veux pas être avec quelqu'un. Quand je suis avec quelqu'un, je suis pas bien.
D'accord. Mais ça, voilà, vous êtes capable de faire ce choix. Eh bien, ce choix que vous opérez, il est clair. Parce que s'il y a bien un choix qui est clair depuis hier soir, qu'on échange, c'est que vous voulez être seul, parce que vous avez parfaitement su faire la part des choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, cette part des choses, il faut que vous arriviez aussi à le faire, mais avec votre mère, avec votre sœur, avec votre garçon, et surtout arrêter de penser et de rabâcher le passé à votre garçon. Déjà, si vous arrivez, vous allez voir comme il va être surpris si vous ne lui parlez que d'aujourd'hui et de demain. Voilà, c'est ouais. Et qu'on arrête de parler de son père qui ne l'a pas reconnu, qui n'a pas voulu le voir, et puis sa grand-mère qui lui a dit si, qui lui a dit ça.
Son père, il l'a quand même reconnu, par contre.
Il l'a reconnu, d'accord.
Oui, il l'a reconnu.
Mais il ne voulait pas le voir, par contre, c'est ça ?
Bah, c'est-à-dire qu'il ne s'en est pas occupé comme il aurait fallu, et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à la DAS.
Oui, c'est-à-dire que quand il était petit, hein, vous m'avez dit qu'il avait été à la DAS, avec le syndrome du bébé secoué.
Ouais.
Mais ensuite, en fait, cet enfant, est-ce qu'il a pu voir son père un petit peu une fois que vous l'avez récupéré ?
Non.
Bon, donc du coup, c'est comme
il l'a vu. Il l'a vu il y a, je sais plus, il y a combien de temps en année.
Vous me l'avez dit
hier. Il y a quelque temps, il était venu sans prévenir pour le voir.
Ah, pour le voir.
Et moi, j'étais surprise, hein, je ne m'y attendais pas du tout. Et j'ai réveillé mon gars pour lui dire que son papa était là, et il ne croyait pas, quoi.
Et comment ça s'est passé ?
Ça a été, mais il a fait 1000 km pour venir le voir un quart d'heure.
Il ne l'a vu qu'un quart d'heure ?
Ouais.
Et pourquoi ça ? Pourquoi ça n'a duré qu'un quart d'heure ?
Je ne sais pas, il n'a pas voulu rester plus longtemps.
Ah d'accord, c'est le papa qui n'a pas voulu rester plus longtemps ?
Ouais.
D'accord.
Oui, c'est pas moi.
Non, mais je sais que c'est pas vous. Personne vous a dit que c'était vous. Je vous ai pas dit que c'était vous. Hein ? Ah, vous voyez ça aussi. C'est toujours penser qu'on vous accuse de quelque chose.
Mais le problème, c'est que j'ai tellement été... comment vous dire ? Le problème dans cette histoire, c'est que moi, j'ai été tout le temps jugée... J'ai eu les services sociaux sur le dos à cause de tout ça. Et j'avais rien fait.
Oui,
j'avais juste fait confiance à quelqu'un que j'aurais pas dû. Je pense que j'étais quand même un peu naïve.
Oui, à qui vous aviez fait confiance là, à cette époque-là ?
Au père.
Au père, d'accord.
Au père ? Parce que comme j'étais en dépression postnatale, je pensais qu'il allait bien s'en occuper en attendant que je sois mieux. Mais après, quand j'ai rappelé pour le récupérer, il ne voulait plus me le rendre.
D'accord, et c'est là qu'il s'est retrouvé à la DAS.
Ils n'en ont quand même pas voulu, puisqu'ils l'ont mis à la DAS.
Ouais.
Bon, ils ont fait de la... Les beaux-parents et tout ça, ses parents, ils ont fait de la garde à vue et tout. Il y a eu... Il y a eu un procès.
Il y a eu un syndrome du bébé secoué, oui, c'est normal qu'ils aient fait de la garde à vue et que la police se soit emparée de l'histoire.
Oui, parce que nous, on savait. Moi, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que j'existais à Marseille quand il s'est fait hospitaliser. Et quand on avait téléphoné à l'hôpital, il y avait une dame et nous avait dit que normalement, elle n'avait pas le droit de nous le dire. Mais en fait, on nous avait dit au départ qu'il était opéré pour une petite maladie bénigne. Et en fait, c'était pas du tout ça. Donc j'ai fait pendant 8 mois les voyages à Marseille, aller-retour, pour aller le voir à la pouponnière. Et quand je suis remontée sur Angers, il y avait un dossier par rapport à l'avocat et tout. Mais ils m'ont chargée, quoi. Ils ont dit que je ne m'étais jamais déplacée pour aller voir mon fils, que j'avais jamais voulu aller le voir.
Alors que vous étiez
je vous assure, c'est un, truc de malade.
Alors que vous étiez en dépression, hein, je le rappelle, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas entendu hier soir, c'est que à la naissance de votre fils, vous avez fait une grosse dépression et vous avez été hospitalisé. Et donc, le papa de cet enfant vous a proposé donc de s'occuper de votre enfant à tous les deux d'ailleurs. Hein, et il l'a emmené à Marseille. Et c'est là, en fait, que il y a eu un signalement et qu'il a été... il a été soupçonné d'avoir maltraité son enfant. Hein.
Oui.
Bon, mais vous, dans tout ça, il est certain que c'est sûrement un concours de circonstances qui fait que on vous tombe dessus alors que vous n'avez rien fait et que vous étiez hospitalisé.
Bah moi, j'ai fait quoi ? J'ai eu tort d'avoir fait confiance au père, en quelque sorte. C'est ça, mon tort que j'ai eu. Mais moi, je pouvais pas savoir. Si on savait tout dans la vie... Et c'est ça, en fait, et après, par contre, quand je suis remontée, j'ai eu les services sociaux qui me lâchaient plus, parce que comme il y avait eu maltraitance, qu'il avait été placé, il faisait des enquêtes sur moi et tout, j'ai toujours été obligée, en fait, de me justifier. Alors que c'était pas moi qui l'avais mis à la DAS.
Non, mais ça je sais. Mais vous voyez tout ça. Maintenant, je pense qu'il faut laisser tout ça de côté. C'est-à-dire que ça appartient à une époque précise. Ça appartient à un moment de votre passé. Et aujourd'hui, ça n'est plus du tout la même chose. Cet enfant, il va bien. Il est en prépa à Rennes. Même s'il y a eu, comme vous me disiez hier, avec votre papa, que vous aimiez beaucoup, il y a eu des choses qui vous ont peiné, ça n'est que du passé encore, Magali. Aujourd'hui...
Bah oui, je sais bien.
Voilà, mais j'insiste là-dessus parce que...
Je sais bien, tout le monde me dit qu'il faut avancer, mais j'ai plus la force, je suis fatiguée.
Mais oui, mais si déjà vous décidiez d'arrêter de penser au passé, ça vous libérerait un espace, Magali, immense... au moins pour vous occuper de vous aujourd'hui. C'est ça que vous savez, c'est simple ce que je vous explique là. C'est que quand on est fatigué, comme vous l'êtes en ce moment, quand on est vraiment, quand on manque d'énergie, la tête nous raconte des mauvaises choses tout le temps parce que c'est comme ça, la nature, notre nature est faite comme ça. Quand on est en dépression, on est tiré vers le bas et c'est souvent tout ce qui s'est passé... avant, là, comme ça, qui remonte, et puis on gamberge là-dessus, et puis ça ne fait que faire des nœuds, et des nœuds, et encore des nœuds sur les nœuds. Ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, c'est le moment présent, c'est les heures, là, qui arrivent, les minutes qui arrivent. Ce qui compte, c'est demain. Ce qui compte, c'est jeudi, quand votre fils va venir. Ce qui compte, c'est ça. Ce sont ces moments-là. Ce qui compte, ce sont les jours qui arrivent, là, dans lesquels vous allez, je l'espère, appliquez ce que je vous dis et vous occupez de vous et arrêtez de vous blesser en permanence et de vous appesantir avec ce passé. Parce que rien ne renaîtra du passé, rien. Personne ne viendra vous faire d'excuses, Magali, pour toutes les choses que vous avez endurées, qu'on vous a fait endurer. Personne. Et dans ces jours qui arrivent...
Je me dis que c'est justement, si j'avais été intelligente, il me serait pas
arrivé. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence, Magali. Vous pouvez être quelqu'un d'ultra sensible, il suffit de ça, et l'intelligence n'a rien à voir là-dedans. Quand on est sensible, quand on est qu'on est tourné vers le bon ou vers le positif, qu'on voit pas spécialement le mal chez l'autre, eh bien, on peut être victime de tout un tas de comportements. Et de tout un tas de personnes qui, elles, sont habitées de mauvaises intentions. Et ça, c'est la vie d'hier, c'est la vie d'aujourd'hui, et c'est la vie de demain, et ça pour tout le monde. Pour chacun de celles et ceux qui écoutent cette radio ce soir, pour moi, pour vous, pour votre fils, il faut arriver à se blinder, il faut arriver à se défendre, en fait, de tout ça, et... là où,
mais c'est pour ça que je comprends pas pourquoi on me donne des médicaments, parce qu'en fait, j'arrive pas à oublier. Et si même j'arrive à oublier, il y a toujours quelqu'un qui est là pour me dire « Ah bah oui, mais t'as vu tout ce que tu nous as fait quand même ?»
Mais qui vous a dit, qui vous dit ça, « T'as vu tout ce que tu nous as fait ?» Qui vous dit ça ?
Bah ma mère.
Bon, et bah faut que vous arrêtiez à un moment de vous faire marcher dessus par votre mère. C'est, elle vous marche dessus quand elle fait ça, votre mère? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans tout ça? De dire à son enfant, hein, elle vous a fait, votre mère. Son rôle devrait être de vous protéger encore aujourd'hui, parce que c'est notre rôle de parents de protéger à vie nos enfants. Ça n'est sûrement pas de leur dire qu'il faut ranger leur maison parce qu'autrement leur enfant ne va pas venir. C'est pas leur rappeler avec tout ce que tu nous as fait. C'est intolérable d'être comme ça. Alors, soit, et ça doit être sûrement le cas, votre mère, elle est comme ça et elle va continuer parce qu'elle est incapable de comprendre qu'il faudrait qu'elle arrête, qu'elle vous blesse quand elle fait ça, qu'elle vous détruit. Puisque visiblement, ça continue depuis maintenant plus de 30 ans. Donc, elle ne va pas changer, cette mère. Elle va continuer à être méchante avec vous. Elle va continuer à vous faire des coups bas. Elle va continuer à essayer de vous déglinguer petit à petit. Donc, soit vous mettez de la distance avec votre mère, soit vous refusez d'entendre ça et vous lui dites. Mais il ne faut pas que ça dure. En tout cas, il ne faut pas que vous permettiez, parce que personne, Magali, n'a le droit de vous dire ce genre de choses.
De toute façon, si c'est pas ma mère, c'est mon beau-frère et ma sœur.
Bon, ben oui, mais là, on dirait qu'il y a toute une raya qui se charge de vous. Pourquoi, en fait, supporter tous ces gens-là? Vous pouvez, à un moment, dire ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Voilà, et que ça n'ait pas d'impact sur vous. Le problème, c'est que aujourd'hui, vous doutez beaucoup. À force d'avoir entendu toutes ces choses-là depuis des années et des années, vous m'avez dit trois fois ce soir, mais de toute façon, je ne suis pas intelligente. Déjà, vous allez arrêter de dire ça. Vous allez arrêter de dire que vous n'êtes pas intelligente parce que vous avez fait ce numéro ce soir, on parle ensemble. Et quand vous êtes en confiance, vous êtes capable de parler, vous êtes capable d'avancer des idées, vous êtes capable d'avancer des arguments. Vous êtes capable d'avoir un échange sans vous prendre pour la dernière de la classe. Donc du coup, il faut vous dire que ça, c'est possible. Regardez, vous parlez avec moi. Et vous êtes nature, vous ne vous sentez pas agressé, vous ne vous sentez pas en position, voyez, d'agressé ou de victime. Vous arrivez à me dire les choses. Pourquoi, à votre avis? Parce que moi, je ne suis pas méchant avec vous. Je ne vous dis pas ah bah oui, vous avez raison, vous n'êtes pas intelligente, Magali, vous avez raison. Non. Non, moi j'entends.
Vous êtes toujours en train de me dévaloriser.
Ben oui, vous êtes tout le temps en train de vous taper dessus. Et ça. Tant que vous ferez ça, eh bien, ça ne peut pas remonter. Tout ça est dans vos mains, Magali. Tout ça est dans vos mains. Je ne vous dis pas du jour au lendemain de vous prendre pour la première de la classe et la plus belle du comté. Je vous demande tout simplement de vous regarder, de vous analyser et de vous dire « Mais finalement, moi, je suis quelqu'un... voilà, j'ai pas mérité tout ça. Et à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de profiter de ce que j'ai. Alors, qu'est-ce que j'ai ?» J'ai encore ce boulot là à mi-temps ou à quart-temps. Je vais essayer de bien me concentrer là-dessus. Et puis là, jeudi, je vais voir mon garçon. Donc, je vais essayer de profiter de ce moment-là. Et puis, on va prendre du thé, on va manger des gâteaux. Je vais lui demander comment ça se passe, sa prépa, s'il a des amis, comment il trouve Rennes. Est-ce que c'est pas trop dur le confinement et le couvre-feu? Parce qu'à Rennes, il me semble qu'ils... Ah non, peut-être à Rennes, ils n'y ont pas le droit puisqu'il y avait du monde au football. Mais vous voyez, en tout cas, profitez de l'instant présent.
Ouais.
Profitez de l'instant présent. Le plaisir de recevoir votre garçon jeudi, à partir de demain matin, vous devriez préparer sa venue jeudi. Et vous voyez, la préparer, et puis si votre mère téléphone, vous décrochez pas. Préparez-vous à ce moment-là. On va laisser passer l'info, si vous voulez bien, et puis on conclura encore 2 minutes ensemble après l'info, d'accord ?
D'accord.
Vous restez avec moi, on se retrouve dans quelques minutes, d'accord ?
D'accord,
à tout de
merci.
Suite. Europe 1, il est 21 minuit. Le journal de la rédaction, Julien Pierce.
Les actes seront là, la République en a besoin. 4 jours après l'assassinat de Samuel Paty, c'est par cette promesse qu'Emmanuel Macron a conclu son déplacement cet après-midi à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Le chef de l'État a présidé une séance de la cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire. Il a annoncé la dissolution demain lors du Conseil des ministres du collectif pro-palestinien, Cher Yassine, directement impliqué dans l'assassinat du professeur, selon le président. Ce collectif est dirigé par Abdelhakim Sefrioui, militant islamiste radical actuellement entendu par les policiers avec 9 autres personnes. 6 gardes à vue ont été levés dans la soirée, dont celle des membres de la famille du tueur, le terroriste qui, avant de passer à l'acte, a contacté le père de famille à l'origine de la vidéo appelant la mobilisation contre Samuel Paty. Gladys Laffitte, les échanges entre les deux hommes ont même été nourris.
Oui, des contacts téléphoniques ont clairement été établis entre les deux hommes par les enquêteurs. Des messages écrits tout d'abord, et ce pendant plusieurs jours avant l'attaque, mais aussi plusieurs appels. A priori, ils ont donc échangé au téléphone de vive voix. On ne connaît pas pour le moment le contenu de leur conversation, mais c'est un véritable enjeu. Si le terroriste a fait part de son projet au père de famille, pourquoi n'a-t-il pas prévenu la police ? Même question pour ces 5 collégiens toujours en garde à vue. Ils ont désigné Samuel Paty au tueur contre 300 euros. L'un d'eux avait été relâché par les policiers, mais il est de nouveau interrogé depuis aujourd'hui. Un mineur de 15 ans qui se serait fait aider par ses camarades, avec qui il a partagé l'argent. Qui a fait quoi et qui a désigné précisément l'enseignant, cela reste à clarifier. Mais pour les enquêteurs, les adolescents ne pouvaient pas ignorer l'issue violente de la démarche du tueur. La polémique enflait déjà depuis plusieurs jours et les vidéos du père de l'une de leurs camarades circulaient beaucoup sur les réseaux sociaux.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Parallèlement à l'enquête, les hommages se multiplient. Une marche blanche s'est déroulée ce soir à Conflans-Sainte-Honorine. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées devant le collège où enseignait le professeur assassiné. Un peu plus tôt, les députés ont entonné la Marseillaise avant de respecter une minute de silence sur les marches du Palais Bourbon. Un hommage national sera rendu à Samuel Paty demain en fin d'après-midi dans la cour de la Sorbonne. Hommage que vous pourrez suivre en direct sur Europe 1, édition spéciale à partir de 18h. Dans le reste de l'actualité ce soir, cette forte hausse du nombre de malades en réanimation. 278 nouvelles admissions ces dernières 24 heures. La situation est particulièrement tendue en Île-de-France où 60% des lits de réanimation sont désormais occupés par des patients Covid. À peine disponible déjà en rupture de stock, le vaccin contre la grippe saisonnière n'est d'ores et déjà plus disponible dans 60% des pharmacies de ville. En une semaine seulement, plus de 5 millions de doses ont été écoulées, soit la moitié des vaccins délivrés l'année passée. Et puis concernant le futur et hypothétique vaccin contre le Covid, des scientifiques alertent contre la défiance à venir des populations. Selon une étude, seulement 58% des Français seraient prêts à se faire vacciner contre le Covid-19, insuffisant pour obtenir une immunité collective, expliquent les chercheurs. L'Assemblée nationale a largement adopté le premier volet du projet de budget 2021. Il prévoit la baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production des entreprises pour faire redémarrer l'économie après la crise du coronavirus. Voilà qui devrait inciter encore davantage d'entreprises à relocaliser en France. Les aides incitatives mises en place par le gouvernement rencontrent en tout cas un franc succès. La demande est tellement forte que le ministère de l'économie va sans doute devoir augmenter les fonds dédiés cette année, s'est réjoui tout à l'heure Bruno Le Maire. La Bourse de Paris a clôturé en repli de 0,27% à 4 929 points. Le foot et le retour de la Ligue des Champions, soirée que vous avez pu vivre en direct dans Europe 1 Sport. 2 mois après sa finale perdue face au Bayern, le PSG a été battu 2-1 sur sa pelouse par Manchester United. L'attaquant anglais Marcus Rashford a inscrit le but victorieux en toute fin de rencontre. Les Rennais, quant à eux, ont été tenus en échec à domicile par les Russes de Krasnodar. Score final 1 partout, les Bretons disputaient ce soir leur premier match de Ligue des Champions de leur histoire. Demain soir, l'Olympique de Marseille affrontera en Grèce l'Olympiakos. Le monde du football qui a eu ce soir une pensée pour Bruno Martini, l'ancien gardien de but des Bleus, est décédé à l'âge de 58 ans. Il avait fait un arrêt cardio-respiratoire la semaine dernière sur le parking du centre de formation de Montpellier, dont il était le directeur adjoint. La météo, marquée par le passage de la tempête Barbara, 12 départements sont ce soir en vigilance orange au vent violent, des Pyrénées jusqu'à la vallée du Rhône. Ça va souffler très fort, Anissa Haddadi.
Oui, prudence encore hein, dans les prochaines heures avec cette dépression Barbara qui poursuit son chemin demain avec du vent sur la moitié nord. Ça va des côtes de la Manche jusqu'en Bourgogne où là les rafales pourront atteindre les 90 km/h. Dans le sud, sur le massif central, la vallée du Rhône et la région lyonnaise, le vent souffle demain jusqu'à 100 km/h. Le vent d'autant se renforce aussi sur le midi toulousain. Dans le ciel, le quart nord-ouest en Vendée, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, et bien là, nous avons toujours un ciel couvert demain avec des averses qui menacent. Et puis dans l'après-midi, après-midi, le soleil va s'imposer sur toute la moitié sud du pays. Les températures, elles sont douces pour la saison grâce à la couverture nuageuse. Avec 11 à 17 degrés demain matin, c'est en Alsace qu'il fera le plus frais. Et dans l'après-midi, comptez 16 à 20 degrés en bord de Manche, 19 à 24 sur l'ensemble du pays et jusqu'à 26 degrés dans le sud-ouest.
Merci Anissa Dadi. Très bonne nuit à tous. À l'écoute d'Europe 1, la Libre Antenne se poursuit. À vos côtés, Olivier Delacroix.
Exactement, Julien. Bonne nuit et à demain.
À demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1, 22h30, 1h, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
Sur Europe 1, c'est votre Libre Antenne jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas, vous pouvez joindre Florian et Natacha en régie qui attendent vos appels, chers amis. Donc pas d'hésitation. Si vous avez une légère envie, eh bien cultivez-la et ils vous attendent. Nous sommes avec Magali, avec qui nous échangeons. Et Magali, à qui ce soir on écrit au 739-21. Magali, le dernier SMS que j'ai reçu pour vous dit que Magali doit apprendre à se pardonner à soi-même, surtout à ne pas culpabiliser pour des choses dont elle n'est pas responsable. Elle doit faire le tri de ce qui lui appartient et de ce qui ne lui a jamais appartenu. La violence qu'elle a subie ne lui appartient pas. Voilà le dernier SMS qui nous a été envoyé par l'une de nos auditrices qui n'a pas signé son SMS. C'est exactement ce que je vous disais. Il faut vraiment vous éloigner de ce passé et puis de ceux qui vous ramènent en permanence dans ce passé. Il faut que vous percutiez sur quelque chose, c'est que votre sœur, votre mère n'ont pas de bonnes intentions quand elles vous disent ça. Elles n'ont pas de... Je ne trouve pas le mot. Elles n'ont pas de... ça va me revenir. Ça n'est pas de pitié, hein, parce que ce n'est pas de la pitié dont je parle. Elles n'ont pas ce sentiment, le sentiment de vous faire du bien. Elles ne pensent qu'à vous rappeler le passé, elles ne pensent qu'à vous ramener à des choses qui, comme dit cette auditrice, ne vous appartiennent pas spécialement, et à vous culpabiliser pour des choses qui ne vous appartiennent pas obligatoirement. Cet enfant, en fait, presque, elles vous ont à un moment même reproché de l'avoir fait. Elles vous reprochent de ne pas vous en être occupé comme il fallait. Or, le rôle d'une maman, le rôle d'une sœur, quand on voit que... Eh bien, on a une maman comme vous qui est en peine un peu d'y arriver, bah on aide. On ne fait pas des réflexions en permanence sur sa capacité à faire ou non. Donc
de toute façon, il y a toujours eu... on a 7 ans d'écart, mais on a été élevés comme deux filles uniques, en fait. C'est compliqué parce que moi, quand je suis partie en Angleterre, ma soeur était toute seule à la maison avec mes parents. Et ça n'a pas duré longtemps. Hein. L'Angleterre, ça a duré que 15 mois. Mais j'étais déjà, je pense déjà, d'un terrain assez fragile. Je voulais changer le monde. Enfin, qui c'est qui n'a pas voulu le changer, le monde? On a tous été jeunes. Et du coup, non seulement j'ai rien changé, mais mes parents étaient obligés de venir me chercher. Enfin, voilà, quoi.
Bon, mais il n'y a pas mort d'homme non plus, hein?
Non, j'ai tué personne, c'est
bon,
sûr.
Bon, voilà. Donc, et puis, encore une fois, c'est le passé, vous aviez 20 ans. Donc, aujourd'hui, vous avez 50 ans. Il faudrait peut-être prendre conscience qu'on n'a qu'une vie et que cette vie, il faut essayer de la traverser en prenant les choses belles qu'elle a à nous offrir et pas les choses moches. Parce qu'il est certain qu'il y en a des choses moches hein, dans la vie. Mais si on reste bloqué dessus... Eh bien, c'est sûr qu'on ne fait que vivre avec ces mauvaises choses et s'empoisonner quelque part. C'est, je vous entendais faire chauffer de l'eau tout à l'heure et vous devez boire du thé ou quelque chose, une infusion.
Oui.
Eh bien, c'est comme si le thé que vous buviez, c'était toujours le même sachet chaque jour. Et puis, ce sachet qui vieillit, qui devient mauvais, qui devient... Alors que chaque jour, vous pouvez prendre un nouveau sachet et vous en faire un, et boire un bon thé. Ben, la vie, c'est comme ça. C'est aussi quelque part ça. Il faut essayer de se dire, juste pour aujourd'hui, voilà, c'est une nouvelle journée. Juste pour aujourd'hui, je vais essayer que cette journée-là soit pas mal. Je vais essayer de bien la passer. Juste pour aujourd'hui, je vais prendre des décisions pour moi. Comme je ne suis pas très heureuse en ce moment, ben, je vais mettre de côté un peu même les autres, là, ceux qui en plus m'alourdissent et puis m'embêtent. Et puis, je vais penser à moi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire du bien aujourd'hui ? Et à partir de ce moment-là, vous pouvez même mettre sur une feuille ce qui vous ferait du bien, qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Et puis le lire, regarder, tiens, qu'est-ce qui est possible là-dedans ? Bah finalement, tiens, passer une journée avec mon garçon, quand il va venir, ça c'est possible. Sortir, me balader quelque part dans un endroit que j'aime bien, ça c'est possible. Quand les salles de sport seront à nouveau ouvertes ou qu'on pourra sortir sans avoir peur d'attraper ce virus, peut-être aller faire un petit coup de sport ou faire un petit coup de footing, quelque chose qui va me vider la tête et que je vais faire pour moi. Aller se balader dans la forêt si vous n'êtes pas loin de la campagne ou de la mer, ou faire des choses pour soi. Et puis aussi peut-être se dire, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, tiens, ce traitement, je sens que ce traitement, il est plus adapté à moi. Je vais essayer de...
Je pense que c'est... Ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'ai des idées noires comme ça tout le temps qui sont présentes. Et c'est vrai que j'ai été hospitalisée au mois d'août et je vois des gens, enfin ils sont font des tentatives de suicide, enfin c'est voilà. Et moi je suis jamais passée à l'acte et des fois je sais pas ce qui m'a, je me demande ce qui m'en empêche parce que je me dis que de toute façon maintenant si je le fais, je serai plus là, ça se verra pas, quoi.
Oui, mais finalement, ça, faire ça, ça veut dire qu'il n'y a plus rien après, il n'y a plus... C'est le vide intersidéral, c'est ça que vous voulez ? Moi, je crois pas que c'est ça que vous voulez.
Non, je pense pas, j'ai pas assez de courage pour le faire.
Et puis, si vous ne l'avez pas fait, c'est que ça n'est pas ça que vous désirez, en fait. Ce que vous désirez, c'est un peu douceur dans votre vie, un peu plus de luminosité, un peu plus de moments... sympa, plutôt que on soit tout le temps en train de vous faire des réflexions. Alors, les décisions, encore une fois, je vous le répète, elles sont dans vos mains. Votre vie, elle est dans vos mains. Les décisions, c'est vous qui pouvez les prendre aujourd'hui pour vous. Vous avez la chance en plus d'être, de ne pas être seul. Je dirais, vous avez déjà un cadre où vous êtes accompagné, où vous savez vous occuper de vous avec ce psy qui vous suit. Si vous avez la possibilité de lui dire, écoutez docteur, voilà, moi je me pose certaines questions, je broie du noir, je suis vraiment décidé à prendre ma vie en main, mais je sens que je suis toujours à avoir des idées noires et tout ça, est-ce que ce traitement il est vraiment adapté à moi aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas remettre certaines choses en question et voir si on peut essayer autre chose. Vous voyez, ce médecin, il suffit juste, je pense, hein, il suffit juste qu'il vous sente avoir envie de prendre les choses en main. C'est un peu ce qu'il vous a dit la dernière fois, mais d'une manière maladroite. En tout cas, s'il vous a vraiment dit, comme vous me l'avez dit hier, c'était un peu maladroit.
Ouais.
Alors que s'il sent que vous avez envie, d'aller puiser, là, que vous êtes décidé, peut-être que ça va aussi créer quelque chose chez lui. Vous savez, une envie de vous aider un peu plus et de vous dire bah, « vous avez raison, et puis on va le faire comme ça ». Et là, vous allez avoir un médecin qui, d'un seul coup, va recoller un peu au voyage avec vous et qui va vous prendre par la main et vous dire « bon, on va tenter ça, Magali. Écoutez, on va faire ça, on va faire ça ». Et je suis sûr que ça vous fera du bien parce que, d'un seul coup, vous aurez en face de vous quelqu'un qui fait attention à vous et qui vous aide. Vous avez besoin de ça, en fait. Vous avez besoin de gens positifs. Vous n'avez pas besoin qu'on vous rabâche.
J'ai jamais eu de chance en... c'est vrai que après, avec du recul, je me dis, j'aurais jamais dû faire un enfant dans ces conditions. J'avais pas programmé tout ça et la seule chose que je me culpabilise, c'est que bah voilà, mon gars, ça n'a pas été facile pour lui.
Oui, mais vous n'êtes pas la première ni la dernière à un moment à tenter. Voilà, cette pulsion de vie qu'est le fait de faire un enfant. Bien évidemment, vous auriez pu, peut-être, vous auriez pu. mais c'est encore des si, des si, des si, et on va refaire le monde en disant si. Cet enfant, il a 20 ans, aujourd'hui, il est à Rennes en prépa, et il fait sa vie. Vous voyez ? Et il vient vous voir jeudi. Il y a des mamans ici qui m'appellent, qui me disent, moi, mon fils, il me donne plus de nouvelles, ça fait 4 ans, 6 ans, il veut plus me parler. Vous, vous avez cette chance-là. Il vient jeudi. Donc, du coup, faites en sorte qu'il ait envie de revenir. Faites en sorte qu'il ait envie de faire attention à sa maman, parce que tout à coup, là, c'est un bon moment qu'il passe avec elle, un moment de douceur. Il a sûrement besoin de ça, cet enfant aussi. Il y en a marre qu'on lui rabâche le passé et toutes les choses qui traînent comme ça et qui sont pas sympas à entendre ou à revivre. Donc, vous allez le surprendre, lui aussi, en étant comme ça. D'accord ? Vous allez essayer ça, Magali ? Vous allez essayer ?
Oui.
Bon, ok. Très bien, mais je compte sur vous, en tout cas.
D'accord, je vous remercie, Olivier.
Mais je vous embrasse, et puis vraiment, pensez, c'est dans vos mains. C'est dans vos mains,
d'accord.
Magali. D'accord ?
Merci pour votre émission, c'est gentil.
Je vous en prie. Au revoir.
Au revoir, bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS. Mercedes-Benz.
Quand je dis que je suis chauffeur de taxi et que je conduis la nuit, les gens pensent que je vis en décalé. Ils ont raison, j'ai un temps d'avance. C'est pour ça que je conduis le nouvel EQV. Le 8 places 100% électrique par Mercedes-Benz.
Avec sa motorisation 100% électrique, ses 8 places et jusqu'à 351 km d'autonomie, ouvrez la voie. Découvrez-le sur mercedes-benz.fr/vans. Mercedes-Benz.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est minuit 17 sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39-21 pour que nous échangions ensemble ce soir ou peut-être demain, comme vous le désirez. On accueille maintenant Lucie au 39-21. Bonsoir Lucie.
Bonsoir.
Bonsoir, comment ça va Lucie ?
Bof, comme il vous a dit Florian.
Ouais. Alors Lucie, on s'est déjà parlé à deux reprises l'année dernière.
C'était cette année, sauf que c'était au printemps.
Oui, cette année, pardon, mais avant, quand je dis l'année dernière, c'est la saison dernière, en fait. C'était avant
l'été. Ah oui.
Voilà. Et on avait évoqué ensemble la difficulté que vous traversez à la maison avec une mésentente avec vos parents, en tout cas des parents qui, visiblement, ne comprennent pas trop les problématiques que vous affrontez, les problématiques d'adolescence. Et puis, lors du deuxième appel, vous m'avez révélé que vous aviez subi une agression sexuelle de la part d'un fils d'ami de vos parents, et que vous en avez parlé à vos parents, et que vos parents ne vous avaient pas cru, et que c'était quelque chose que vous viviez très mal, puisque ce garçon venait régulièrement à nouveau chez vous. Il était mécanicien, me semble-t-il, hein, c'est ça ? Ou avec votre père, il parlait de mécanique. Remémorez-moi un petit peu.
Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, c'est bon, ça. Bref, il venait comme ça à la maison. Ouais.
On s'était dit qu'il fallait absolument que vous portiez plainte, en tout cas que vous en parliez à quelqu'un. Et c'était compliqué pour vous parce que vous habitez un petit village de campagne, que vous étiez à peu près à une demi-heure, trois quarts d'heure de la gendarmerie ou de la ville où il y avait un commissariat. Et puis on en était resté là, vous m'aviez dit que vous alliez essayer, et qu'est-ce qui s'est passé depuis, en fait ? Et oui, et puis aussi, pour que celles et ceux qui nous écoutent régulièrement vous identifient bien, vous avez un compagnon de vie sans lequel vous auriez du mal à affronter cette vie qui s'appelle Oreo, et qui est votre chien qui vous accompagne partout. Comment il va, Oreo, déjà ?
Bien, là, il est à côté.
Il est à côté ? Il dort ou il est... Qu'est-ce qu'il fait ?
Il est réveillé, là, il écoute. Moi.
Il écoute ? Il écoute la radio ?
Ouais, enfin non, comme j'ai pas l'haut-parleur, non, il attend pas, mais ouais.
D'accord.
Il m'attend, moi.
Comment ça se passe pour vous ces derniers temps, Lucie ?
Ouais, ça, c'est compliqué.
Pourquoi ?
Mais comme l'autre jour, quand on avait parlé des agressions, on avait parlé des deux. Il y avait l'autre aussi, celle de 13 ans.
Oui.
Ouais, enfin bon, voilà. Mais du coup, ça a bougé. Voilà. Et c'est moins drôle.
C'est-à-dire ? Ça a recommencé
genre... De quoi?
Ça a recommencé?
Non, heureusement, mais voilà.
Il faut que vous m'expliquiez... Il y a quoi? Pardon?
Mais en gros, j'ai été voir une sage-femme pour une autre raison, et puis elle, du coup, sans que je le veuille, bah, elle a fait un signalement. Pourtant, elle ne m'a même pas examinée, donc c'est un peu bizarre qu'elle a fait un signalement. Pourtant, j'en ai parlé à d'autres médecins et tout, et ils n'ont jamais rien fait. Hein. C'est la première à faire quelque chose. Hein. Pourtant, j'en ai vu des tonnes de psy et des tonnes de médecins, vu toutes les thèses que j'ai faites. Hein.
Vous êtes allé la voir pourquoi, cette sage-femme?
Une autre raison, genre.
Une autre raison, d'accord. Bon, vous tenez pas trop à me dire pourquoi, mais...
Si, mais hors antenne, ce serait mieux.
D'accord. Elle a fait donc un signalement. De quel type a-t-elle fait un signalement par rapport...
En gros, elle m'a posé la question, tu fumes, tu bois, t'es enceinte, des questions comme ça, basiques, genre tu fumes, tu bois et tout. Et puis après, elle me pose la question, t'as été agressée, et puis après, je pense, je sais pas si c'est banal pour elle de poser la question à tout le monde, mais du coup genre j'ai bugué, j'étais super mal qu'elle a posé cette question, et puis j'étais obligée de lui dire la vérité. En plus, elle avait fait sortir ma mère à la fin du rendez-vous qu'elle a posé ces questions là genre, et du coup j'étais obligée de lui dire quoi, et puis voilà. Puis du coup voilà, et du coup c'était mardi dernier que j'ai eu rendez-vous.
Oui.
Et genre elle m'a rappelé là lundi à midi pour dire qu'elle avait fait un signalement, je le veuille ou non. Parce qu'au début, elle n'était pas sûre, parce que je suis son premier cas comme ça, genre. Elle a dit que c'était son premier cas mineur à avoir subi des agressions. Que les autres, c'était que des femmes majeures, du coup, c'était moins... Enfin, pas moins grave, les femmes majeures, mais... Enfin, pour elle, c'était moins grave, quoi. Elle n'était pas obligée de faire un signalement pour les femmes majeures, quoi. J'étais ouais. Son premier cas, genre, mineur, quoi. Et puis, voilà. Et puis, je pense qu'elle était... Je sais pas, c'était son premier cas, ouais.
Et elle a donc fait ce signalement jeudi dernier, vous me dites, ou...
Non, j'ai eu rendez-vous mardi dernier avec elle, et oui. Puis elle l'a fait lundi à midi, là, elle m'a appelé. Ce lundi-là, avant.
Hier, donc. Hier.
Oui,
d'accord.
Ouais.
Et donc, elle vous a dit qu'elle avait fait un signalement auprès de qui? Auprès de la police?
Je crois, ou les services, ou les associations, les services sociaux, les services je sais pas sociaux. Quoi, les associations. Je sais pas, elle m'a pas mieux dit, en fait. C'est ça le problème, elle m'a pas voulu mieux me dire. Et elle m'a dit que je devrais aller voir un médecin normal. Enfin, un médecin normal, je veux dire un médecin traitant, genre un médecin quand t'es malade, voilà, physiquement, quoi.
D'accord.
C'est bizarre, genre. Et je n'ai pas trop compris pourquoi elle voulait que j'aille voir un médecin normal. Je crois que c'est pour que la plainte, elle soit plus grosse. Je crois qu'elle veut que j'aille voir un médecin normal. Mais c'est bizarre parce qu'il ne va pas m'examiner, le médecin normal. Enfin, je veux dire, enfin, voilà. Il ne va pas m'examiner à cet endroit-là, genre, pour ouais, prouver que j'ai vraiment été agressée, quoi.
Non, Un médecin généraliste ne vous... Non, il ne fera pas ce type de... d'auscultation, mais...
Du coup, je ne sais pas pourquoi elle veut que j'aille voir un médecin généraliste.
Peut-être pour que vous lui expliquiez ce qui s'est passé et qu'il puisse attester que vous n'êtes pas bien à cause de ça. Peut-être, hein, je ne sais pas, mais le fait d'expliquer ça à un médecin, dont c'est le travail aussi, hein, de faire un signalement, elle veut peut-être renforcer sa démarche à elle. Parce que si elle a fait un signalement et que le médecin en fait un lui aussi, ça risque de faire bouger les choses plus rapidement. À mon avis, ça va dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah oui, mais ça va mettre tout mes temps à bouger parce que du coup, mes parents, ils sont pas au courant encore. Comme là, ma mère, je lui ai dit que je vais devoir aller voir le médecin traitant, mais on va trouver une autre excuse, genre une excuse de vaccin, parce que grâce au confinement, ça s'est pas fait correctement. Du coup, on va trouver ça comme excuse à propos du vaccin et à propos d'une prise de sang. Parce que quand j'avais fait ma TS et que j'étais un mois à l'hôpital psychiatrique, là-bas, ils m'ont tellement donné des médocs que ça m'a rendu malade physiquement. Enfin bon, bref. Mais du coup, voilà. Genre, ma mère, on lui a dit ça pour le rendez-vous. Mais bon, elle va trouver sa cloche, du coup, qu'au rendez-vous avec le médecin traitant et la sage-femme, qu'elle va devoir rester dehors. Elle va trouver ça bizarre, genre. Mais si c'est juste pour une histoire de vaccin.
Je sais pas, mais si vous lui demandez tout simplement de rester dehors, elle va peut-être rester dehors. Votre...
Oui, mais elle va vraiment m'engueuler à certains. Elle va trouver ça bizarre. Elle va se dire, ouais, pourquoi je suis pas avec elle? C'est bizarre pour une raison comme ça.
Qu'est-ce que vous voudriez, vous, qui se passe là?
Moi, je sais pas. Je sais pas trop, en fait. Enfin, je veux de l'aide, mais je sais pas trop si ça va aller vite ou quoi. En fait, c'est ça qui m'angoisse. Genre, comme la sage-femme, elle m'a dit qu'après, je pourrais peut-être avoir un gynéco, une nouvelle psychologue et tout, mais je sais pas. Mm-hmm. Là, d'ailleurs, ça a mal fini avec ma psychologue, mais vraiment
pourquoi
mal.
Pourquoi?
Mais ça fait un moment que ça va mal. Je crois que ça fait un an que ça va mal avec elle, même plus. Un an et demi, deux ans. Un an et demi. Ça fait 4-5 ans que je la vois, je crois. Et ça fait un an et demi, deux ans que ça va de pire en pire. Puis ça va vraiment de pire en pire. Genre, ça, c'est une autre histoire, mais waouh. À cause d'elle, j'ai limite fait une TS il n'y a pas longtemps, là. Ouais, à cause d'elle. Bravo. Merci. Du coup, là, pour me venger, du coup, je l'ai un peu insultée. Et du coup, là, je suis obligée d'aller la voir. Mais du coup, genre, je l'ai insultée, la chef de service. Elle m'a dit que j'avais pas le choix de la voir. Et du coup, je dois rester dans la salle d'attente. Elle m'a dit, la chef de service du CESAD, que je suis obligée d'aller la voir. Mais sinon, je reste dans la salle d'attente, quoi.
Bon, mais...
Et ouais,
peut-être, mais plus... peut-être que la chef de service, il faut lui expliquer que ça passe plus trop avec cette psy, qu'il faut que vous en changiez, vous savez. Peut-être elle peut comprendre, elle.
Bah, ils ont dit pas avant 18 ans, j'aurais pas une psy avant 18 ans au CMP. Donc j'espère que si elle signale mon, que j'en aurai une avant. Mm-hmm. Parce mais que 18 ans, c'est à février, quoi.
18 ans, c'est dans combien de temps ça arrive?
En février.
En février. Vous vous rendez compte? On avait parlé l'année dernière, on se disait encore un an à attendre. Et là, vous vous rendez compte? Là, dans 4 mois, c'est février.
Ouais, mais bon.
Bah bon, ça va aller vite quand même. Hein?
Bah oui, mais bon, si je suis pas mort d'ici là.
Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est Lucie, vous savez très bien que il faut arrêter de penser à ça. Il faut vous dire que là, vous avez déjà fait les choses comme il fallait. Hein, que vous êtes allé voir cette sage-femme, c'est pas innocent ce que vous avez fait. C'est bien pour qu'elle constate quelque chose. Ce médecin, il va falloir que vous essayiez d'aller le voir seul, hein, avec votre mère. Mais si votre mère est là, eh ben, il va falloir le dire devant elle aussi, ce qui s'est passé. Et parce que vous êtes là pour vous sauver, hein, sauver votre peau, et puis pour que ça ne recommence pas, Lucie. Donc, pensez, quand vous allez chez le médecin, pensez à Auréo aussi. Pensez que lui, il doit ressentir quand vous êtes... quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes triste, quand vous êtes au fond du trou, quand vous avez envie de faire ces TS. Parce que j'ai l'impression que ces TS, ce sont des appels au secours. Parce que j'entends pas une Lucie qui a envie vraiment de quitter le monde et qu'il n'y ait plus rien, que la lumière soit éteinte là, et qu'on ne sente plus rien. J'ai l'impression à chaque fois que c'est un appel au secours. À chaque fois que vous faites ça.
Mais j'ai refait ça il y a un mois.
Mais oui, mais est-ce que ça n'est pas un appel au secours? Est-ce que ça n'est pas...
Non, je voulais vraiment mourir parce que j'ai perdu ma chienne. Heureusement qu'il reste Auréo, sinon, ben voilà. Ouais. J'ai refait la TS à cause que j'ai perdu ma chienne et aussi ce qu'elle a dit ma psy, quoi. Parce que ma psy, elle a dit que c'est du chantage, que je voulais me suicider. Et pour moi, c'est pas du chantage. J'allais tellement mal à la perte de ma chienne. Heureusement qu'il me reste Auréo, mais si mes deux chiens, ils seraient plus là, bah, c'est sûr que là, je me serais jeté sous le train direct.
Hein. Bon, mais pour l'instant, Auréo est là, hein?
Bah heureusement, hein, j'ai toujours peur de le perdre, quoi, comme Belle. Que Belle, elle a eu une maladie et si elle est partie vite à 3 semaines, comme ça, genre. Ouais. J'en veux au vétérinaire pour l'avoir sauvée. Elle avait la pancréa, ces 3 semaines, elle est partie comme ça et elle avait 9 ans.
Elle avait 9 ans?
Bah ouais, c'est pas vieux, c'était une border collie croisée labrador, ça vit jusqu'à 15 ans, ces chiens.
Ouais, ouais. Bon, et Auréo, il est en forme, lui?
Bah, il est aussi déprimé, hein, comme moi, hein, depuis qu'il y a plus Belle. Hein. Ouais. Puis je sais même pas quand j'aurai un nouveau chien.
Pourquoi? Mon
père, il a dit pas avant le printemps, pas avant que je me barre d'ici. C'est horrible.
Parce que votre père, il vous dit pas avant que tu te barres d'ici?
Oui, c'est horrible.
Ouais. Bah ouais.
Qui dit pas avant le printemps, peut-être à cause de l'hiver, mais quand il dit pas avant que je parte de la maison, c'est horrible.
Bah, c'est pas gentil, ça c'est clair.
En plus, Auréo, il est tout seul quand je suis pas là.
Mais si vous partez en fait de la maison, en fait, vous allez l'emmener, Auréo?
Bah oui, moi je peux pas vivre sans lui. Hein.
D'accord.
Déjà, il ira avec moi.
Bon, mais là, il faut attendre les prochains jours, attendre que ce signalement, il aille au bout. Déjà, le médecin, vous devriez y aller quand, normalement, cette semaine, ou est-ce que...
Je sais pas, parce que normalement, moi je l'ai eu lundi à midi, quoi, la sage-femme, et normalement, moi je lui ai dit d'appeler ma mère, hein. J'ai pas envie de... qu'elle m'engueule, moi, ma mère. Je préfère que ce soit elle qui l'appelle. Hein.
D'accord.
Et du coup, bah, je sais pas, hein, peut-être dans 2 semaines, j'aurai rendez-vous chez le médecin.
Mais est-ce
pas.
Que la sage-femme...
Mais après, le signalement, il va mettre combien de temps à se faire, à votre avis?
Bah, tout dépend si le médecin le fait, mais la sage-femme vous a dit qu'elle allait... Elle allait... Pardon, excusez-moi, j'avale le travers. Elle allait appeler le médecin, la sage-femme?
Elle m'a pas dit. M'a juste dit, je lui ai demandé de rappeler ma mère pour qu'elle aura le rendez-vous, c'est tout.
D'accord, mais voilà. Je pense que ça va. Je pense que la sage-femme, avec ce qu'elle a constaté, Elle va appeler vite votre maman. Je pense que c'est cette semaine qu'elle va l'appeler.
D'ailleurs, en plus, elle m'a trouvé une médecin femme au lieu que ce soit mon médecin traitant homme, quoi.
Elle est au collège là-bas. Elle est au collège, votre.
Non, elle m'a trouvé la sage-femme. Elle m'a trouvé un médecin femme et que mon médecin traitant c'est un homme.
D'accord. Donc du coup, elle va appeler donc votre maman pour qu'elle prenne un rendez-vous avec cette médecin femme.
Mais non, normalement c'est la sage-femme qui prend rendez-vous, je crois. Enfin, j'ai pas tout pigé en fait. Hein. En fait, elle m'a tellement dit de choses, ça m'avait fait beaucoup de mal tout ce qu'elle m'a dit la sage-femme.
Pourquoi ça?
Parce que, comme genre, c'est bien beau hein, d'aller voir un médecin normal et tout. Enfin, un médecin normal, mais moi, je voudrais plutôt aller voir un qui fasse des preuves à mes parents. Puis j'ai vu qu'au mois de décembre, ce sera interdit, genre, les certificats de virginité pour savoir s'il le suit ou pas, pour faire comprendre à mes parents, quoi, qu'il m'ait vraiment rêvé quelque chose. Moi-même, j'ai entendu dire qu'en faisant du cheval, ça part tout seul, mais ça, j'y crois pas.
Non,
c'est
non,
n'importe
non,
quoi.
Non, pas du tout, pas du tout. Parce que vous faites du cheval, hein, c'est ça?
Oui, j'ai fait depuis 10 ans.
D'accord.
Mais bon. Du coup, c'est pas vrai, rassurez-moi, que ça part pas tout
non,
seul en faisant
non.
du cheval.
Mais non, pas du tout. Et puis, quand il y aura vraiment des examens approfondis, ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun doute possible là-dessus. Donc,
ah bon? Parce que moi, j'ai vu que sur Internet...
Il ne faut pas regarder sur Internet, on trouve de tout sur Internet. Fiez-vous à la réalité, et la réalité, c'est que ça ne s'en va pas... comme ça, avec ce que vous avez subi, c'est quelque chose qui laisse des traces. Donc, en tout cas, qui prouve bien que, voilà, que vous avez perdu votre virginité. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Vous allez me tenir au courant des démarches de cette sage-femme. Hein, vous allez continuer à être attentive, voir si cette sage-femme, si dans, mettons, au début de semaine prochaine, vous n'avez pas de nouvelles. Il va falloir que vous me le disiez, et puis peut-être qu'on réfléchisse de quelle manière vous pouvez aller déclencher avec elle ce rendez-vous, mais je pense que si elle a fait un signalement, elle va s'en occuper vite de ce rendez-vous, et je pense que votre mère, elle va recevoir un coup de téléphone cette semaine. Il faut après que votre mère aille vraiment à ce rendez-vous avec vous. Si elle vous en parle, il faut vraiment que vous insistiez pour y aller, que vous dites que vous avez besoin d'y aller. Inventez un truc que vous vous sentez en ce moment, vous vous sentez pas très bien, que vous avez mal au ventre, que vous êtes fatigué, que vous sentez qu'il y a quelque chose, mais vous ne savez pas ce qui se passe, mais que vous ne vous sentez pas bien physiquement, hein, et que comme un virus, quelque chose. De toute façon, je vous connais bien, donc vous êtes capable de raconter un truc un peu comme ça.
Ouais, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour aller chez la sage-femme. Et là-bas, je voulais un rendez-vous chez le gynéco, mais le gynéco, c'était pas avant l'année prochaine. Et
c'est
ce que j'ai fait. J'ai raconté
majeur.
Un bobard. Mmh. Ah non, c'était pas vraiment un bobard, c'était vrai que j'avais mal au ventre, mais j'ai exagéré le truc.
Bon, en tout cas,
ouais,
vous me
et d'ailleurs, tenez... c'est horrible ce qu'elle m'a dit, la sage-femme, hein, qu'elle m'a dit que 10 fois, on n'en avait pas de naissance et tout. Donc vous êtes sûr que le gynéco, il pourra me le dire?
Écoutez, je suis pas un spécialiste, mais le peu que j'ai entendu, je pense qu'il n'y a aucune erreur possible, surtout en ce qui vous concerne, parce que c'est tout de même quelque chose de très grave que vous avez subi, donc je pense qu'il n'y a pas d'erreur possible. Mais vous allez me tenir au courant, Lucie.
Et du coup, moi, je voulais vous poser des questions avant qu'on...
D'accord, mais peut-être on se posera ça hors antenne, parce que j'ai un peu de monde qui attend derrière, d'accord? Vous voulez bien?
En gros, l'autre jour, quand vous me parlez de la regard des mineurs, c'est quoi? C'est ce qu'elle a fait, vous croyez, la sage-femme ou pas?
C'est possible.
Que la brigade des mineurs, vous m'avez dit que c'était un Saint-Etienne, et moi, Saint-Etienne, c'est une heure de chez moi. Donc,
oui,
c'est
non,
possible qu'elle ait signalé là ou pas?
Ah, mais bien évidemment que c'est possible qu'elle ait signalé là. D'ailleurs, si.
Mais elle n'a pas pu signaler partout, quand même.
Non, bien sûr que non, elle n'a pas signalé partout. Mais si la brigade des mineurs, qui est le plus proche de chez vous, est celle de Saint-Etienne. Elle a dû saisir la brigade des mineurs. Si elle veut que vous alliez chez un médecin, c'est, je pense, que pour que le médecin constate ce que vous lui racontez, et que lui aussi, il est avec ce que vous allez lui raconter comme à la sage-femme, sachez qu'il est obligé de faire un signalement. Vous comprenez? C'est que quand on raconte à un médecin qu'on a été victime d'une agression sexuelle ou carrément d'un viol, il est tenu de faire un signalement si c'est une mineure ou un mineur qui lui raconte ça. Donc, oui. Un signalement, ça se fait au niveau des services sociaux, et les services sociaux ensuite reportent sur généralement la brigade des mineurs. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas de nouvelles encore et que ça peut prendre une semaine, voire deux semaines, parce que la brigade des mineurs, ils ont aussi beaucoup de travail et que ça prend un certain temps, ça je le sais. Parce que dernièrement, j'ai été témoin d'une histoire dans une famille où il y a ce même type d'agression sexuelle et la brigade des mineurs a mis 15 jours à convoquer la maman et son enfant. Donc, si vous recroisez la sage-femme, il est bien que vous lui demandiez si elle a, auprès de qui elle a fait ce signalement. Et puis que la seconde question, si vraiment elle a appelé votre maman pour que ce rendez-vous chez cette médecin-femme se fasse, parce qu'une médecin-femme, c'est sûrement différent, parce qu'une médecin-femme peut-être peut aller un peu plus loin dans le fait de constater les choses, vous voyez. Ça ne sera pas une séance médicale de gynécologie, mais une médecin-femme a sûrement la possibilité d'aller un peu plus loin dans le fait de vous ausculter. Donc, du coup, ça peut ça se faire, normalement, ça devrait se faire dans les 15 jours. Mais ça peut prendre, ça peut prendre un petit peu, ça peut prendre 10 jours, 15 jours en plus à chaque fois que le signalement est fait. Ça peut prendre un certain temps, mais pas, pas 6 mois, ni 3 mois, vous voyez, ni, au plus, ça peut prendre un mois, je pense. Mais tout dépend de l'afflux qu'il y a auprès de cette brigade des mineurs, s'ils ont beaucoup de travail ou pas, si voilà, c'est et ça je n'en ai aucune idée par rapport à celle de Saint-Étienne. Mais si la grande ville qui est tout près de votre village, c'est Saint-Étienne, et il me semble que c'est ça, je pense que c'est cette brigade-là qui va être mise au courant.
Oui.
D'accord.
Moi, ça m'angoisse beaucoup, genre que notre parent après qui m'engueule ou quoi, genre comme eux, ils me prennent pas au sérieux. Parce que ma mère, elle m'engueule, elle dit que c'est pas vrai, ils font m'engueuler, donc j'ai peur qu'après ça finisse mal pour moi, et comme je suis toujours pas majeure, ça craint, genre. Ça me donne vraiment rien envie de me suicider. Dès qu'il m'arrive un truc, je repense à ça à chaque fois. Tous les jours, j'y pense au moins une fois ou deux, trois par jour.
On s'est dit la dernière fois que quand il arrive quelque chose comme ça, il faut en parler, il faut le dire. Bien évidemment, c'est normal que ça vous provoque des angoisses, que vous ayez peur des conséquences que ça va avoir sur votre vie. Mais ce qui s'est passé, Lucie, ça n'est pas normal et ça doit absolument être dit et entendu par des adultes et surtout par vos parents. À partir du moment où d'autres adultes seront au courant de cette histoire, vos parents arrêteront peut-être d'être légers comme ils le sont actuellement et de ne pas vous croire ou de vous engueuler parce que vous avez été agressé. Vous comprenez ? Vous leur avez dit une fois, ils ne vous ont pas cru. Parce que ça ne les arrangeait pas, cette histoire, hein, puisque c'est le fils d'amis à eux. Donc là, je peux vous dire que quand la police s'en mêle, ça change la donne. Et qu'il est demandé aux parents, déjà, d'assurer leur rôle de parents. Parce qu'autrement, ils peuvent avoir des ennuis. Donc, croyez-moi...
Si je viens me suicider, ils vont avoir des ennuis, c'est ça ?
Non, je ne vous dis pas ça. Je vous parle de la police, là, Lucie. Parle de la police. Et puis, arrêtez de me parler de vous suicider. Il faut...
D'ailleurs, j'ai peur de ça à cause du signalement. J'ai peur genre qu'ils me refoutent à un hôpital. Et moi, je ne peux pas aller là-bas. C'est
mais
trop
arrêtez horrible. Arrêtez de vous projeter.
C'est ce qu'ils m'ont dit, mes parents. Qui
oui, mais vos parents, bon, vos parents, ils vous disent des choses. Ils ont l'air de... Bon, ils ont l'air de faire des réflexions et de pas beaucoup réfléchir quand ils parlent. Hein, excusez-moi. Mais ça, c'est... Franchement... En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a un signalement qui a été fait, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Parce qu'il y a des adultes qui vont enfin vous prendre au sérieux et s'occuper de vous. Parce que vous en avez grandement besoin, Lucie. Grandement besoin. Comme Magali qu'on avait avant, vous avez grandement besoin d'être aidé par des gens autour de vous qui sont attentifs, qui sont doux et qui vont prendre soin de vous. Et dans tout ça, bah, Oreo... il y a de grandes chances qu'ils viennent avec vous parce que Oreo, il vous fait du bien. Donc, soyez positive. Ne vous projetez pas dans quelque chose de négatif, de noir. Ça ne sert à rien. Ça, c'est de la fiction, c'est de la dentelle, comme on dit à la campagne. On brode, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, je pense que vous avez besoin de calme. Vous avez besoin, c'est très bien ce qui s'est passé. Et cette sage-femme... La prochaine fois que vous la voyez, essayez de lui demander déjà quand elle va passer ses coups de fil. Si elle l'a déjà fait, déjà ça va un peu vous rassurer. Et puis, soyez patiente, attendez. Et puis, la semaine prochaine, vous me donnez des nouvelles. D'accord ?
Je rappelle à la radio.
Vous savez très bien que vous avez mon numéro. Donc, vous me laissez un message et vous me dites comment ça se passe, que je vous rappelle et puis je vous rappellerai. D'accord ?
Oui, et qu'est-ce que je voulais vous dire
On n'a plus beaucoup de temps, hein, Lucie. Donc, on n'a plus qu'une minute.
Et si je porte plainte, est-ce que Auréole aura le droit de venir avec moi au commissariat et tout ou pas ?
Mais au commissariat, bien sûr qu'il aura le droit de venir avec vous. Mais je pense qu'il va y avoir une plainte que vous allez être obligé de... Je pense que c'est vos parents qui vont gérer ça avec vous aussi. Ils vont être obligés de gérer ça avec vous. Vous voyez, la plainte, de toute façon, dans 3 mois, dans 4 mois, vous êtes majeur, Lucie. Ça veut dire que dans 4 mois, vous pouvez porter plainte en tant que majeur. Les choses vont bien changer. Et vous savez très bien, en plus, que on sera là pour vous, hein, pour vous indiquer comment faire et à qui vous adresser. Mais en prenant des précautions. Je veux dire, il ne faut pas se précipiter. Faudra voir si cette sage-femme, elle peut parler à vos parents pour que vos parents prennent conscience que ce qui vous est arrivé est grave et que, au lieu de le prendre un peu légèrement comme ils le font, très légèrement même, il faut qu'ils prennent conscience qu'il y a quelqu'un qui vous a agressé et que ça ne marche pas. Ça ne doit pas exister, ça. Et il va falloir qu'ils prennent conscience qu'ils sont là pour vous protéger, ces parents. Et à ce niveau-là, croyez-moi, ce n'est pas fini. Ça peut changer grandement l'attitude de vos parents, Lucie, vraiment. Parce que le jour où ils vont vraiment prendre conscience que c'est arrivé, que c'est vrai, eh bien, ils peuvent changer du tout au tout et se mettre à vous protéger comme le plus grand de leurs trésors. Croyez-moi. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de se projeter dans les choses négatives. Il faut patienter et puis vous allez me tenir au courant. D'accord ?
Mais du coup, ça va avancer vite alors si vous dites à 2 semaines, un mois ?
Bah oui, ça peut avancer. Si pour vous, vite, 2 semaines, un mois, ça va.
C'est la rentrée, quoi.
Ce sont les délais. Donc, vous me tenez au courant, d'accord ?
Mais 2 semaines, un mois, ça veut dire genre que j'aurai un psychologue, un gynéco, j'aurai quoi, genre 2 semaines, un mois ?
Je ne sais pas, Lucie. On parle de la police, là. Donc, dans 2 semaines, un mois, vous devriez avoir des nouvelles de ce signalement. Après, les psys, tout ça, c'est autre chose. Hein,
mais aussi, moi, ce qui m'angoisse, le signalement et tout, c'est ouais, après un avocat, comment je vais faire parce que ça coûte cher.
Bon, vous inquiétez pas là-dessus. Un avocat, il y a des commis d'office. À partir du moment où vous êtes mineur, il y a tout un tas de choses qui sont adaptées pour les mineurs. Mais on en parlera au moment où ça arrivera. D'accord ?
J'espère que ça va aller, parce que là, moi, ça m'angoisse vraiment.
Mais je comprends. Mais vous
heureusement qu'il y a Auréo, sinon je serais plus là.
Mais bien sûr qu'il y a Auréo, et puis nous, on est là aussi. Hein ? N'oubliez pas ça. D'accord ?
Bah oui, aussi, heureusement que vous êtes là.
Bon. Vous me tenez au courant, surtout, la semaine prochaine. Hein ?
Oui.
Je vous embrasse, Lucie. Oui. Essayez de passer une bonne nuit.
Ouais, bonne
nuit. Et pas de bêtises. Hein ? Pas de bêtises. OK ?
Ça, c'est pas sûr.
Bon. Je vous embrasse.
Ouais,
au revoir.
Moi aussi.
Au revoir.
Et au revoir. À bientôt.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est 12h44 sur Europe 1. C'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Nous accueillons maintenant Carmen au 3921. Bonsoir, Carmen.
Oui, bonsoir, Olivier.
Bonsoir. Comment allez-vous, Carmen ?
Oui, ça va et vous ?
Ça va. Ça va bien. Ça fait drôle de faire... ça passe tellement vite, là, 1h30. Je me dis, là, il n'y a plus que 16 minutes et ça a passé à une vitesse folle. Bon, mais en tout cas, je vous le dis, on parle là et puis on continuera cette conversation demain si elle n'est pas finie à la fin de l'émission, d'accord ?
D'accord.
Alors, dites-moi pour quelle raison vous m'appelez. Vous m'appelez d'où, d'ailleurs, Carmen ?
Ma ville ?
Oui, non, dans le coin, enfin, la région, votre ville, comme vous voulez.
Île-de-France.
Île-de-France, d'accord.
Oui.
Carmen, ça vient d'où, ce joli prénom-là ?
Ben, je ne sais pas, de l'Espagne.
Espagne ? D'accord, vous avez des origines espagnoles ?
Non.
D'accord. Bon, en tout cas, vous avez bien de la chance, c'est un très joli prénom.
Merci.
Alors, dites-moi ce qui vous amène.
Oui, j'appelais à propos de ce qui se passe en France. République et... religion. Donc, au niveau de la République, quelque chose qui me gêne un peu, c'est le fait qu'on peut blasphémer. Et donc, pour moi, blasphémer, c'est un peu comme manque de respect et un peu comme insulte. Mmh. C'est-à-dire que quand on y a un agent de l'État et qu'on insulte, on est sujette à de contravention, poussée verbale.
Oui.
Ce n'est pas bien vu. Mmh. Et donc, pour moi, blasphémer, c'est aussi porter atteinte à une idéologie, à une vie intérieure que se fait quelqu'un. De l'autre côté, la religion, pour moi, la religion, c'est quelque chose qui... la religion, c'est l'amour. La religion, c'est la bonne relation avec l'autre et le respect de l'autre.
Mmh.
Pour moi, agresser quelqu'un physiquement, c'est qu'est-ce qui nous donne ce droit de porter atteinte physiquement à quelqu'un et de tuer. Religion, pour moi, on n'a pas le droit de tuer. On aime l'autre et on veut la vie pour l'autre, on veut aider l'autre et on veut la bonne vie en société. Et il y a le respect. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe des deux côtés.
D'accord. Vous avez une petite idée quand même, non ?
Idée à propos de ?
Ben, à propos de tout ce que vous venez de dire, il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. Il y a la notion de, d'abord de religion, je vais au plus facile. La religion qui est censée nous communiquer certaines valeurs portées par les différents dieux qui incarnent ces religions, mais qui sont généralement des valeurs humaines qui nous portent, comme vous le dites, à nous aimer les uns les autres, à nous respecter, à nous aider, à nous aimer, donc. Et puis, vous avez parlé de la République. Et quand vous parlez de la République, vous parlez de ces blasphèmes, donc, qui sont des manques de respect, mais jusque-là, je suis d'accord avec vous, mais je ne vois pas très bien, en fait, la liaison que vous faites avec tout ça, c'est que finalement quoi ? Le blasphème, ce manque de respect, provoque quoi pour vous ? Parce que il y a quelque chose qui manque dans ce que vous me dites. C'est-à-dire que vous me parlez de la religion qu'on va mettre à droite, et puis vous me parlez de la République et du blasphème avec le manque de respect, l'insulte à gauche. Et dans votre appel, en fait, je ne vois pas ce que vous voulez dire.
Quand on se moque, par exemple, de la religion de quelqu'un.
D'accord.
Quand on ridiculise la religion de quelqu'un, c'est-à-dire que pour moi, la religion nous aide à forger une certaine vie intérieure.
Oui.
Ça devrait.
Ça devrait.
Nous aider intérieurement à mettre en nous des idées, des choses qui passent dans notre comportement pour mieux vivre.
Complètement. Alors, je vais vous
et
dire,
donc,
je vous arrête.
Donc, pour moi, ridiculiser ça, c'est un manque de respect.
D'accord. Alors, je comprends. Mais je vais vous répondre. Je vais vous répondre qu'on a le droit de croire. On a le droit de pratiquer une religion. C'est une liberté qu'on a en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'humain. Mais on a aussi la liberté de ne pas croire. On a la liberté de se moquer et parfois d'une manière comme le blasphème. mais qui ne reste finalement qu'un acte de, je dirais, c'est un message qu'on essaie de faire passer. Et pour que vous compreniez bien, hein, ma chère Carmen, c'est que je ne suis pas très friand, moi. Je me souviens d'une parole de Jamel Debbouze, qui, après les attentats de Charlie Hebdo, disait combien il était pour la liberté d'expression, lui qui est un homme de spectacle, il est d'un drôle. J'adore l'humour de cet homme qui tourne vraiment en dérision, souvent sa communauté, et qui parle de la religion aussi, et qui s'en moque aussi, mais d'une manière qui n'est pas irrespectueuse, en fait. Certains mettent le curseur où ils le veulent, puisqu'on parle des caricatures, hein, qui ont causé toutes ces prises de conscience et toute cette violence, toute cette colère. Ces caricatures, elles restent le droit, elles ont le droit d'exister. Elles ont, ici, en France, parfaitement le droit d'exister. Et qu'elles impactent certaines consciences ne veut pas dire qu'on doit les interdire, ne veut pas dire que c'est mal. Voilà, moi, comme Jamel Debbouze, comme plein de gens, souvent, les caricatures qui sont faites, par exemple, sur la religion en règle générale, et celle que je connais, la religion catholique, qui met parfois en scène des hommes d'église en train de faire des choses pas très catholiques, c'est pas quelque chose qui me fait rire, c'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise, mais par contre, c'est quelque chose que j'accepte parce que il est le produit intellectuel de personnes que ça fait rire, en tout cas, qui y voient un intérêt. On prône aujourd'hui cette liberté d'expression et on est en plein dedans, là, lorsque je vous dis ça. Je n'apprécie pas particulièrement les caricatures, celles qui ont été faites et qui causent toute cette colère, je ne les apprécie pas particulièrement. Je n'apprécie pas non plus celles qui sont faites sur la religion catholique. Mais je sais, par contre, au plus profond de moi-même, qu'elles sont faites pour faire rire une certaine partie du public qui est friand de ce type de caricature et qui ne voit absolument pas dedans l'envie de blesser, mais qui voit l'envie de se moquer. Se moquer, on met le curseur, vous voyez, quand je vous parle de Jamel Debbouze, qui se moque de sa communauté, il met le curseur et une certaine subtilité dans sa manière de se moquer. Eh bien, dans ses blasphèmes, dans ses caricatures, pardonnez-moi, il y a un degré d'humour qui n'est pas spécialement de mon goût, du goût de plein de gens, mais qui est permis, c'est permis, c'est la liberté d'expression. Et si ça fait rire certains, leur liberté est d'en rire.
Par contre, c'est pas manque de respect.
Mais si, c'est un manque de respect, mais ce manque de respect, en fait, il devient effectif à partir du moment où vous regardez ces caricatures et que vous vous attardez dessus. À partir du moment où vous considérez que ces caricatures, elles ne vous font pas rire, qu'elles ne vous intéressent pas, que ça ne fait pas spécialement partie de ce que vous appréciez, de ce que vous avez envie de voir, vous avez la liberté de passer votre chemin et de ne pas y apporter plus d'importance que ça. Parce que elles sont faites, pour le coup, dans cet esprit-là. Il y a aussi un acte, peut-être, je dirais, cet humour un peu hardcore, hein, parce que par moments, quand je vous parle d'humour hardcore, c'est moi, j'ai beaucoup plus été choqué, mais c'est normal. Il y avait des caricatures de fêtes avec des hommes d'église dans des positions pas terribles. Il y en a eu une de fête sur Cyril Hanouna aussi qui m'a interpellé. Mais ça ne fait que m'interpeller. Je me dis, voilà, celui qui fait ça, c'est comme celui qui fait une vanne que je trouve lourde ou que je trouve déplacée. Mais je n'y vois pas une envie de déclencher une violence quelconque, une guerre quelconque ou une atteinte à la personne quelconque. C'est assez subtil, hein, je crois, mais c'est juste une question de pas prendre les choses personnellement, en fait.
C'est pas une insulte.
Ça n'est pas... On peut considérer ça comme insultant. On peut considérer ça comme insultant pour ceux qui le prennent comme ça. Moi, je ne considère pas que ça... À chaque fois que j'ai vu des caricatures qui me dérangeaient, et pas que dans Charlie Hebdo, hein, il y en a un peu partout, je considérais que la gêne que cela m'occasionnait faisait que je passais à autre chose. Et je ne me disais pas, ces gens ont voulu me blesser, ces gens ont voulu me manquer de respect. En règle générale, ces dessins sont faits pour percuter les consciences, pour... Mais encore une fois, c'est une question de mettre le curseur. Ceux qui créent ça, intellectuellement, mettent le curseur où eux, ils ressentent qu'ils le mettent et qu'ils pensent qu'ils vont faire rire ceux qui sont friands et preneurs de cet humour-là, de cet humour un peu. Et là, je vous parle encore une fois, je ne vous parle pas des caricatures qui font en ce moment beaucoup parler et qui sont à l'origine de toutes ces horreurs. Mais d'autres caricatures qui, pour ma part, m'ont heurté. Mais elles n'ont fait que me heurter, je suis passé à autre chose, comme la plupart des gens, en fin de compte. Et le manque de respect, encore une fois...
Parce que les gens qui croient...
Les gens qui croient
sont choqués. Pour les croyants... c'est pas soit qu'on blesse, mais c'est la croyance. On croit en Dieu, et pour le croyant, c'est un manque de respect de la croyance qu'on a.
Oui, mais c'est justement la caricature.
C'est comme si on se fichait de cette idée qu'on a de Dieu.
Mais non, parce
que enfin, oui. Et voilà.
Mais c'est en fait comme on l'écrit là. Quelqu'un me l'écrit. Fabien me l'écrit, il me dit que voilà, on est dans un pays laïque, le droit au blasphème est inscrit dans la loi, ça on le sait, mais surtout ce qu'il dit est vraiment traduit ce que je veux dire, la caricature et le blasphème n'est jamais contre les croyants, mais contre le mouvement, la religion, c'est-à-dire que ces caricatures, elles sont souvent faites pour se moquer de ces religions parce qu'on n'adhère pas à ces religions. Et comme je vous le disais au début de mon intervention, on a le droit de ne pas adhérer et de s'en moquer. Et finalement, ça n'est que ça. À partir du moment où on le prend vraiment à cœur et pour soi, ça devient... c'est là que ça provoque des comportements qui dépassent l'entendement. Pardon ?
J'ai dit ça ne devrait pas. Pour moi, c'est pour moi, je le prends comme ridiculisé, que comme si on marche sur cette vie intérieure qu'on veut se forger.
Non, on ridiculise une religion qui prône des idées, qui prône. Qui parle de Jésus, de Mahomet, qui sont des abstractions finalement pour tout un tas de personnes. Mais ce ne sont pas vraiment des choses qui sont faites pour choquer, pour blesser. Mais on pourra continuer cette conversation demain si vous le voulez bien. C'est la fin de l'émission, Carmen.
Donc, oui, d'accord.
Et je vois qu'il y a beaucoup de SMS, bien évidemment, puisque ça intéresse beaucoup de gens. On en parlera demain.
D'accord. Hein,
d'accord,
d'accord.
Je vous passerai un petit coup de fil demain. Je vous embrasse. À demain.
Merci.
Au revoir, Carmen.
Merci, moi aussi. Au revoir.
Au revoir. Chers amis, c'est la fin de cette libre antenne. Bien évidemment, cette. Ce sujet vous intéresse beaucoup, là les SMS commencent à s'animer et ça sera intéressant de continuer. N'hésitez pas d'ailleurs vous aussi si vous avez envie de vous exprimer, 39-21. Quant à moi je vais aller me coucher comme la plupart d'entre vous, essayer de faire de bons rêves, me reposer et puis vous retrouver demain à partir de 22h30. Salut. Europe 1, il est 1h du matin.